Voilà, l'étoile plein les yeux, c'est fini pour ce 62e numéro. Aujourd'hui, pour le cinéma, c'était Marie Lécuyer, Marie Blanc et puis mon indispensable camarade animatrice, j'ai nommé Anastasia. À la technique aujourd'hui, Sébastien Boudin de NS Media en renfort et puis Marie Blanc qu'il convient de saluer chaleureusement pour son boulot en régie cette année, pour avoir affronté vaillamment les jingles pas normalisés, la chaleur étouffante de la cabine de régie et les potards de master insidieusement baissés. Vous pourrez nous retrouver sur notre site transistor.fr où je vous encourage à nous laisser des commentaires même au plus fort de l'été. Et puis bien sûr sur notre page Facebook où nous continuerons de vous abreuver de suggestions pendant tout l'été. L'étoile plein les yeux, c'est une émission produite par Rémi Cerda et Anastasia Kozireva qui vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans les salles obscures. Mais attendez, chers auditeurs, ne partez pas, on ne se lève jamais avant la fin du générique. Et pour clore en beauté cette formidable année de cinéma passée à vos côtés, une petite désannonce s'impose assurément. Voilà, d'étoiles plein les yeux, cette année c'était pas moins de 36 numéros pour un total de 52 films, ce qui n'aurait pas été possible sans l'implication et parfois le courage de nos 20 chroniqueurs de la saison, Alice une fois, Alice deux fois, Anna, Aurore, notre spécialiste des films traumatiques, Camilla, Clément, Corentin, Héloïse, Hugo, Léo, Maëlys, Marie, la femme de l'ombre, qui ne pouvait donc qu'aimer les salles obscures, et puis l'autre Marie, qui justement ne l'aime pas cette ombre en particulier, celle que nous faisons à En Spectateur, hashtag des os, pas des os, et puis Mathias, Maxime, Mériel, Myriam, Nicolas, Pierre et Sarah. Chroniqueurs parmi lesquels nous distinguerons Pierre, notre sérivore, qui aura vaillamment posé son petit écran à côté de notre grande toile tout au long de ce second semestre. L'étoile plein les yeux, c'était aussi 6 diffusions en direct cette année, l'occasion pour nous de remercier encore la régie, les équipes de NS Media également, parce qu'au cinéma comme à la radio, sans les techniciens, il n'y a plus rien. Merci à eux donc pour avoir mis en lumière et surtout en ondes nos beaux physiques de radio. On n'oublie pas non plus les amis des Cinémas Lumière qui nous ont soutenus dans la préparation et la diffusion des émissions et nous ont permis de réaliser une belle interview de Kiyoshi Kurosawa pour le numéro 50, une expérience que nous serons, j'espère, amenés à renouveler bien des fois encore. On salue donc Sylvie Darocha, Julien Nouveau et toute l'équipe des Cinémas Lumière. Et puis, dernière figure irremplaçable à honorer de mes salutations les plus enthousiastes, Anastasia, coproductrice de l'émission Devant l'Éternel, car à la radio comme à la belote ou en amour, c'est toujours mieux d'avoir un bon partenaire. Enfin, il y a vous, chers auditeurs, vous dont les oreilles accueillantes donnent vie à notre travail, vous avec qui nous avons été très heureux de partager cette saison avec quelques films dont on se souviendra longtemps. La bouleversante Torture Rouge, bien sûr, encore et toujours. Mais aussi le regard splendide de Paola Baer chez Ozon, L'humanité éplorée de Ken Loach, Cotillard, inoubliable dans Mal de pierre de Nicole Garcia, le magnifique Fait de beaux rêves de Bellocchio, l'ultime chef-d'œuvre d'Andrei Vajda avec Les fleurs bleues, puis le mysticisme immémorial de Terrence Malick récemment, et bien sûr, quelques claques, Nocturama ou L'enfer fait cinéma, machine fascinante et implacable, paroxysme d'une modernité définitivement démente. Fukuhama est chef-d'œuvre du cinéma documentaire, même si le terme de documentaire est ici absurde, la preuve éclatante que le réel peut être plus éloquent et plus artistique que toutes les fictions. Et puis, le phénomène La La Land, où le génie de la mise en scène s'allie au cinéma le plus populaire comme seul Hollywood a su le faire pour nous réunir tous, qui que nous soyons, devant ces objets magiques que sont les écrans de cinéma. Voilà ce que nous avons essayé de faire à notre mesure, vous donner des envies de découverte, critiquer, discuter, commenter, parfois batailler, mais surtout faire partager une passion. Pour l'instant, nous prenons des vacances. Mais dès la rentrée, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et d'ici là, si l'été est trop chaud, n'oubliez pas le refuge des salles obscures qui vous tend les bras.
j'adore la manière dont ce réalisateur joue sur le regard à la fin de chacun de ses films. Enfin, le regard, il veut tout dire.
Parce que c'est pas juste les grands films du cinéma français, c'est même pas du tout ça, c'est avant tout la réception d'un spectateur qui commence par son enfance jusqu'à sa vie d'adulte.
On ne peut s'empêcher de penser qu'il y a une sorte de parallèle ou de regard rétrospectif de Vajda sur sa vie, sur son propre engagement.
Je sais pas trop si on rit parce qu'on trouve ça drôle ou parce qu'on est très gêné de voir la situation qui est en train de se mettre en place à l'écran, en fait.
Et aussi, il y a une mise en abîme assez amusante, je trouve, avec la montre du journaliste.
Oui, et en même temps d'une façon toujours très artistique, donc on n'a jamais l'impression de tomber vraiment dans la pornographie.
Et on voit des photos de lui sur un écran, on voit même pas interagir avec qui que ce soit.
Ça a été 2 heures d'angoisse et de malaise devant cette bande de jeunes sans but. Je n'ai pas...
Non, il m'a pas lâché et j'étais vraiment sous tension. Et la fin m'a laissé...
Sauf qu'après, on a 17 minutes de Rodrigo en train de dire « Mon Dieu, est-ce qu'il existe? Pourquoi tu me réponds pas? Qu'est-ce que tu fais? J'ai ça face à moi, j'en peux plus, je comprends rien et tout. »
Le grain est tel qu'on aurait presque dit que c'était dessiné.
Ça ajoute un peu un côté humain à ces personnes, à ces femmes qui sont pas seulement, des corps, mais qui sont pas seulement non plus des femmes qui se battent pour leur liberté, pas du tout.
Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un équilibre entre la parole et le silence.
J'ai l'impression d'un espèce de voilà, exercice de style, exercice de théâtre, où on te demande de passer de l'émotion à la colère en passant par la gentillesse.
Et finalement, on voit le regard de Paulina qui se transforme au fur et à mesure et qui commence à voir la danse partout dans la vie.
Et cette espèce de menace aussi, pendant tout le film, on se dit mais il va le dire, il va pas le dire, ouais, non.
La caméra le suit un petit peu comme si... celui qui portait la caméra marchait avec lui.
Il y a vraiment que lui et les autres personnages gravitent autour, moi, comme dans un rêve en fait.
Mais c'est finalement un film lyrique, comme tu l'as dit, et qui repose beaucoup sur des ambiances musicales et un grand onirisme.
On se rend compte que c'est pas forcément tellement différent quand on quitte la salle de cinéma. On est toujours autant spectateur de cette situation.
On finit par comprendre qu'on a peut-être été touché l'espace d'1h20 par quelque chose qui ressemble à une forme de grâce.
Je suis persuadée qu'il trouvera aussi ses amateurs de la part des spectateurs qui trouveront de la vie, de la passion et peut-être d'apaisement. Je vous souhaite donc de très bonnes vacances et à bientôt sur Transistor.
Allons-y. D'ailleurs, est-ce que c'est Hippolyte Girardot, c'est le producteur, c'est lui ou c'est pas lui?
Il peut dire, je crois que c'est le producteur exécutif. Ouais. Okay. Je crois que c'est lui. C'est lui ou le diplomate en chef.
Mais oui, j'en doute là.
À mon avis, je pense que c'est quelques lits là déjà. Bon, on va dire que c'est lui.
Ok.
De toute façon, ce qu'on fait, c'est que tu le dis. Comme ça, si c'est une connerie, les gens se disent bon, c'est une chroniqueuse qui l'a pêché, je sais pas où.